Regard sur le judaïsme. Catherine Mann et Simon Martin. Le judaïsme est une religion tournée vers l'action. Nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de le rappeler au cours de ces émissions, le verbe « faire » est le verbe le plus utilisé dans la Bible. Pragmatique, les Juifs ne se perdent pas en nos raisons, ils agissent. Les fêtes religieuses, les rites et les 613 mitzvot qui rythment la vie quotidienne des Juifs sont là pour le lui rappeler. Ainsi, le croyant qui veut montrer son amour pour Dieu, c'est avec des actes concrets qu'il le lui prouvera. Et cela fait de la relation entre l'homme et Dieu quelque chose de très particulier et d'unique. Les rites et les fêtes dans la religion juive, troisième émission consacrée à ce thème immense en compagnie de Catherine Mann, bibliste. Catherine Mann, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Alors, dans une yeshiva, les leçons commencent souvent par une histoire drôle. Catherine, vous nous avez donné l'habitude de commencer cette émission par une blague.
Eh bien, on peut garder un peu... Justement, comme il est question de faire, on va proposer changer une ampoule. Alors, elle est très connue, il y en a des centaines. Je cite, par exemple, « Combien de communistes faut-il pour changer une ampoule qui est grillée ?» La réponse est 1, mais il faut 60 ans avant qu'ils s'aperçoivent qu'elle est grillée. Ou sinon, combien de Français faut-il pour changer une ampoule grillée ? Il ne faut pas de personne parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils brillent dans le noir. Par contre, combien de Belges faut-il pour changer une ampoule grillée ? 5. 1 qui monte sur la table pour tourner l'ampoule et 4 qui tournent la table. Alors, un que j'aime bien aussi, c'est les psys. Combien de psys faut-il pour changer une ampoule ? Un seul, mais il faut que l'ampoule ait envie d'être changée. Et donc, enfin, cette série, elle est à l'infini, mais on ajoute toujours à la fin. Combien de mères juives faut-il pour changer une ampoule ? Alors, une seule, mais elle dit « Oh, c'est pas la peine, je peux rester assise dans le noir ». Et ça, ça montre la soumission peut-être de la femme juive, mais surtout le dévouement jusqu'à la...
Voilà qui en dit long, et sur l'humour juif également.
Je peux rester assise dans le noir.
Alors nous nous étions arrêtés dans notre précédente émission, après avoir vu les rites qui marquent les grands moments de la vie, naissance, mariage, enterrement. Nous étions donc arrêtés à l'aspect vestimentaire, et c'est un point important, Catherine Mann, parce que c'est ce qu'on voit en premier, et puis tout le monde a cette image du juif avec ses fameuses papillotes.
Oui, bah alors il y a effectivement dans toutes les mitzvot, les rites d'habillement, effectivement, il est interdit dans le Lévitique de couper les bords de la barbe. Donc il s'allonge et ça fait les papillotes. Pourquoi on ne peut pas couper les bords de la barbe ? Je ne sais pas.
Il n'y a pas de raison là. Ouais.
Ah, c'est pas expliqué, mais enfin, ça différencie des autres barbus de la région. On appelait les Arabes de la région les temprasés. Donc ça distingue, il y a ceux qui ont les papillotes et ceux qui ont les temprasés. Tout ça, ça remonte à très très loin dans l'histoire. Mais, et puis, je ne sais pas si on avait vu pour le mariage l'habitude de raser la tête des femmes.
Qui portent du coup un fichu.
Ou une perruque.
Une perruque.
Et celles qui n'ont pas, parce que maintenant c'est quand même que dans les hyper-orthodoxes qu'on peut trouver ça. Mais malgré tout, les cheveux doivent être cachés quand on est marié, on ne peut pas montrer les cheveux. Donc les femmes, elles ont toujours soit une perruque sur leurs cheveux, soit un fichu. Alors, ce qui caractérise quand même, à part les vêtements de prière qu'on verra peut-être après, mais d'abord les vêtements du juif au quotidien, c'est qu'ils sont très habillés. Parce que les lois de la pudeur sont absolument invraisemblables. Enfin, c'est quelque chose de... beaucoup plus pour les femmes sans doute, mais même pour les hommes... Il y a tout un passage de la loi qui s'appelle les tzniut, enfin les lois de bien se comporter, comment est-ce qu'on pourrait dire, de décence. Alors la femme a plus d'obligations, c'est parce que l'homme est réputé être incapable de se maîtriser et de faire face à ses pulsions, donc la femme doit se cacher pour aider l'homme à se contrôler. Mais pour la femme, il y a quand même une règle. Elle n'a pas le droit de découvrir ses jambes à partir du genou et plus haut. Hein, donc le plus court, c'est la jupe jusqu'au genou, mais pas de mini-jupe. Mais les bras aussi. du coude, à partir du coude, on ne montre rien. Le décolleté, on ne peut pas être plus bas que les clavicules. Donc, vous voyez, c'est très limité. Alors, on ne peut pas porter de vêtements moulants. Une femme ne peut pas avoir de robe moulante. Ni même des habits qui attirent l'œil, attirants. Il faut être souris grise et parce qu'il y a une grande partie d'humilité dans la décence. Le juif se doit d'être humble, même par sa façon de s'habiller, et ça, c'est pour les hommes, voilà, en premier, normalement.
Et on peut se rappeler ce passage de la Bible où Abraham lui-même attend 60 ans avant de découvrir que Sarai est très belle, finalement, alors qu'elle passait un fleuve et qu'elle aurait remonté sa robe.
Mais parce que les lois de la pudeur existent même dans les rapports conjugaux. On ne peut pas découvrir la nudité de son conjoint. Tout doit se passer dans la plus grande pudeur et discrétion. La nudité a quelque chose de sacré qui n'est réservé finalement presque qu'à Dieu. Il n'y a que ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans les rencontres de civilisation, par exemple avec les Grecs, qui eux vivaient pour le sport et tout nu, donc... C'était des chocs culturels terribles. Mais on voit encore, hein, moi, de toute façon, j'ai hérité de ces habitudes-là, et c'est très difficile. On peut ne plus croire en Dieu facilement dans le judaïsme, mais se débarrasser d'habitudes qui vous ont été insufflées par des générations et des générations, on ne sait même pas qu'on les a. Les habitudes, et on reconnaît quand on va au bord de la mer, les femmes juives, elles ont donc les manches jusqu'au coude, des jupes en dessous du genou, et tout ce qu'elles font, c'est marcher sur le bord de l'eau, au bord de la mer, et juste de dire que on se reconnaît les unes les autres à ce comportement-là, ben, c'est comme ça. Les mains de pied, c'est bon aussi, mais la pudeur, elle est évidemment maximum dans les mouvements orthodoxes, et il faut reconnaître encore une fois que dans les courants non orthodoxes, on s'adapte un peu à la vie actuelle. Tout est encore une fois question de choix, mais si on veut être rigoureux, on doit être extrêmement discret.
Oui, nous rappelons que dans ces émissions sur les rites et fêtes, on s'appuie sur les juifs orthodoxes, évidemment.
C'est le repère, parce qu'effectivement, il y a tous les accommodements selon le choix.
Et selon les pays, et selon les origines culturelles. Ouais. Alors, il y a des vêtements de fête aussi pour le Shabbat. Est-ce qu'on s'habille différemment
Ah oui, de toute façon, il y a les beaux vêtements. Il y a des choses qu'on avait encore en Occident partout. Les vêtements du dimanche. Là, c'était les vêtements du Shabbat. Ils sont évidemment plus beaux que les vêtements de semaine. Mais il y a aussi quand même la différence entre les vêtements masculins de prière... Quoique pour le Shabbat, il n'y a pas énormément de différence, mais au moins le châle de prière, normalement, il n'est que pour les hommes. Les hommes de plus de 13 ans, à 13 ans, on devient un homme, on a dit.
Oui, parce qu'il y a des vêtements de prière, pareil, hein, qui sont un peu image d'épinal. Je commence par la kippa, tout le monde voit ce que c'est.
Oui, mais en même temps, il n'y a pas d'obligation de porter une kippa, c'est ça qui est curieux. Non. C'est la chose qui est devenue la plus représentative.
Voilà.
Mais en fait, c'est même devenu représentatif parce que chaque communauté a choisi un genre de kippa. Et on se reconnaît, si vous avez une kippa tricotée, une kippa au crochet, une kippa en velours, une kippa comme si brodée. Et c'est devenu un signe distinctif. Mais au départ, avoir la tête couverte, c'est un signe d'obéissance et de soumission à Dieu. C'est réservé à la prière, mais effectivement, c'est devenu le signe distinctif. Mais on voit aussi, c'est passé dans l'Église, puisque la kippa, les évêques ont une kippa. Hein.
Exactement. Alors, il y a le fameux châle dont vous venez de parler, le talit.
Oui, avec les franges.
Avec ses franges, les tzitzit, pas facile à dire.
Non, tzitzit. Et je ne sais pas combien il y a de tzitzit, donc des petites franges. On voit d'ailleurs... Jésus, à un moment donné, il y a une guérison d'une femme hémorroïde et elle touche les franges. Donc, parce qu'il faut se rappeler, elles ont un fil rouge en général qui est symbolique de la présence de Dieu. Mais elles ont aussi, elles sont torsadées, les petites tzitzit. Et ils vont jusqu'à compter le nombre de torsades de chaque tzitzit. Et donc, il faut que ça soit 39.
Oui, tout est symbolique, évidemment, dans le
39 torsades, ouais, parce que c'est le nombre de la phrase « Dieu est un ». Enfin, tout est compté, tout est mesuré, tout est symbolique. Tout est symbolique.
Il y a encore le téphilin.
Alors, c'est ce qu'on appelle les phylactères. C'est les petites boîtes noires
qu'on accroche
avec
au bras.
Des lanières. Bah, y a deux sortes. Il y a celles qu'on accroche sur la tête.
Ouais.
Il y en a même trois. Il y a ceux qu'on accroche au bras et ceux qu'on accroche au doigt. Et alors, le symbole au bras, c'est le bras droit, je crois. Et ça symbolise justement le service actif, l'action de Dieu, le service actif pour Dieu. Au doigt, c'est le fiançailles avec Dieu. Et à la tête, c'est le lien de l'intelligence, on se soumet qu'à Dieu. Alors, on ne met pas les phylactères pour les grandes fêtes et pour le Shabbat. Mais c'est tous les jours, pour les prières, effectivement. Et la prière, alors encore une fois, pour le juif orthodoxe, ça prend une partie de la journée plus que conséquente. Si on voulait vraiment faire toutes les prières que le mâle juif orthodoxe doit faire, on se demande même comment ils peuvent travailler.
Oui, on va en venir aux trois prières principales, en tout cas. Avant cela, faisons un tour par la synagogue.
D'accord.
Qui est évidemment un endroit de ralliement des juifs. Alors, la synagogue n'est pas un endroit consacré, contrairement
non,
à une église.
Le temple. L'église, elle est le parallèle du temple. Mais la synagogue...
La synagogue, non.
L'étymologie française le dit, ça vient du grec ensemble, et ago, venir, c'est l'endroit de rassemblement, finalement. Et on se rassemblait, on ne sait même pas quand on démarrait les synagogues, elles existaient déjà à côté du temple. On se rassemblait pour étudier la loi.
C'était plus des endroits de réunion à la base,
oui,
que des endroits de prière.
C'est devenu maison d'études.
Maison d'études.
Alors maintenant, effectivement, les synagogues sont un peu... Du fait qu'il n'y a pas d'autres possibilités, elles se sont démultipliées. Il y a les salles d'études, mais il y a aussi des salles pour la culture juive et pour les réunions plus laïques.
Ah, il n'y a pas de règles architecturales pour une synagogue ? C'est selon les coins,
selon les envies. Il y en a même qui ressemblent à des églises et on le leur reproche. parce que c'est aussi une manière de se fondre dans les habitudes locales. Ce qui est important, c'est qu'il y ait l'armoire sainte,
voilà,
au milieu de la synagogue. C'est ça qui fait l'armoire sainte dans laquelle il y a le rouleau de la loi.
Les rouleaux de la loi, le Sefer Torah.
La Torah, voilà.
Sefer Torah.
Et une petite lampe devant l'armoire pour répondre à un commandement du Lévitique dans le temple qui disait qu'il fallait qu'une lampe brûle perpétuellement.
Voilà, donc ce sont les éléments principaux d'une synagogue, le reste est assez libre. Alors, il y a un autre élément qui est important, il faut qu'il y ait un quorum d'hommes juifs pour que la prière soit possible.
Oui, ça remonte à Abraham, minimum 10.
Minimum 10.
Le minyan, donc effectivement, une synagogue peut exister à partir de 10 hommes juifs. Mais il y a des synagogues absolument énormes. Avec le partage maintenant les femmes à l'étage, derrière,
voilà,
des comment ça s'appelait, moucharabiais, c'est ça, des femmes...
Les paravents.
Des espèces où on ne pouvait pas les voir, où elles pouvaient voir, mais elles ne pouvaient pas être vues. Et il faut évidemment le pupitre de lecture au centre de la synagogue. Et puis une menorah, qui marque un peu la présence avec le menorah, c'est le chandelier à cette branche.
On y reviendra parce que c'est évidemment c'est à partir de la destruction du temple que la plupart de ces rites ont été mis en place justement
pour compenser la disparition du temple.
Et donc on peut comprendre que dans des moments de l'histoire du peuple juif assez compliqués, en fait, ils pouvaient se réunir à partir de 10 hommes un peu là où ils pouvaient, dans n'importe quel endroit, puisqu'il n'a pas besoin d'être consacré, quoi. Voilà.
Oui, mais c'est pas si facile que ça parce qu'effectivement, ça oblige les juifs à vivre aussi, pas trop loin les uns des
pas
autres.
Pas trop loin les uns des autres.
Donc ça fait aussi des petites obligations. Vous ne pouvez pas déménager comme vous voulez. Il faut chercher. S'il y a 9 autres juifs dans le coin,
c'est déjà
compliqué.
C'est déjà compliqué, oui.
Ça peut expliquer qu'à Chartres, il n'y a pas de synagogue. Est-ce qu'il y a des familles? Je ne sais pas. Alors, on peut aussi parler du Sefer Torah, justement. Le rouleau de la Torah, qui rituellement doit être écrit à la main.
À la main.
Sur des parchemins.
Et sans aucune erreur. À la moindre erreur, il paraît-il, le scribe recommence tout, quoi.
Ah, oui, c'est ça. Oui, normalement.
Il ne peut pas y avoir de rature, disons.
Non. Bah, j'ai quand même vu des choses, des photos de parchemins raturés, corrigés, avec la signature, enfin, comme on fait dans nos actes. Enfin, non, normalement, il n'y a pas de... Mais ça coûtait très très cher.
Ça coûte
donc,
très très cher, encore aujourd'hui, hein, j'avais lu plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Les synagogues n'avaient pas tous les rouleaux de la loi. Il fallait être tellement riche pour avoir tous les rouleaux que parfois ils avaient juste le Pentateuque, un ou deux prophètes, et puis c'était tout, parce qu'il fallait énormément d'argent. Et surtout, donc, non, normalement, il faut pas de faute, mais au bout de 7 ans, on considère qu'ils sont usés. Parce que ça, avec la manipulation, ce n'est pas un matériau. Donc au bout de 7 ans, on doit renouveler. Donc il y a des gens qui font que ça, écrire.
Et en plus, c'est ce qui était détruit en premier lors des pogroms, des choses comme ça, j'imagine.
C'est aussi ce qui a été mis au secret très très vite.
C'est ce qui
si on remonte justement les rouleaux de Qumran, ceux qu'on a découverts à la mer morte, on les a découverts justement
parce qu'ils ont été cachés.
Il y a des jarres de terre cuite qui étaient faites pour conserver les choses. Et donc tout de suite, on les met à l'abri. Et c'est grâce à ça qu'en 1947, on les a retrouvés. Sachant que c'est la première chose qu'on va essayer de détruire. Il les protégeait. Mais on n'a pas le droit de détruire, même dans le judaïsme. Hein. Si le rouleau est usé, on doit aller le déposer dans un lieu particulier qui s'appelle la Geniza. Où on stocke finalement tous les vieux rouleaux et tous les objets sacrés qu'on n'emploie plus, on peut rien détruire. C'est un peu compliqué. Même la Bible imprimée de nos jours, normalement, on ne doit pas.
On ne doit pas passer au pilon. Catherine, poursuivons notre émission avec la vie liturgique et puis les prières dans une journée d'un juif pratiquant. Évidemment, ça commence à l'aube.
Ah, ça commence dès qu'on se réveille. Hein. Le juif a des rites au saut du lit, se laver dans une façon tout à fait rituelle, la main droite puis la main gauche. Enfin, c'est extrêmement compliqué, mais au saut du lit... Il y a déjà une...
La première prière, le schéma?
Ça dépend, non. Mais la prière du matin, la première, c'est « Béni sois-tu ». Alors peut-être en entier ça fait beaucoup, mais je l'ai toujours un peu détesté cette prière, parce que c'est dans tous les béni sois-tu, il y a béni sois-tu de ne pas m'avoir fait femme avant le schéma. Et donc il y a
Ah,
tout
c'est
ça.
avant le schéma encore, d'accord.
Oui, oh, ben oui, le schéma Israël, il vient. Et même il y a encore
Le
le
schéma qui veut dire écoute, hein, pour.
schéma Israël. Non, béni sois-tu de ne pas m'avoir fait femme. Et puis la femme doit répondre.
Oui.
Béni sois-tu qui m'a faite selon ta volonté. Les prières journalières. Alors, je prends exactement donc toute la liste, parce que dans certaines communautés, on commence par lire la confession de foi de Maïmonide.
D'accord.
Avant tout,
Grand sage juif.
voilà. Alors, c'est les 13 principes de la foi juive de Rabbi Moshe ben Maïmon. Donc c'est pas un credo officiel, mais il est passé comme un credo secondaire. Donc il est, alors bon, je crois que le créateur, ça ressemble très très fort au
Au credo, oui.
credo chrétien. Et juste à la fin, effectivement, je crois d'une foi entière à la venue du Messie, même s'il tarde, j'attendrai chaque jour sa venue. Et le 13, je crois d'une foi entière que la résurrection des morts se produira au moment voulu par le Créateur, que son nom soit béni et que son souvenir soit exalté pour toujours à jamais. Donc, on voit quand même que dans cette prière de Maïmonide, on est très très proche de ce qui fait la tradition chrétienne. On croit à la résurrection, on croit au Messie, mais on attend. Ensuite, il y a les bénédictions de l'aube, donc, mais il y a des chants, il y a des psaumes. Je ne sais même pas combien de psaumes il y a, des ablutions. Et puis, donc, le béni, à ce moment-là, béni es-tu, Seigneur roi du monde, qui ne m'a pas fait naître femme. Et puis les femmes disent, non, et puis notre roi du monde, merci d'avoir fait le monde. Il y en a une liste de 2 pages. Béni es-tu, Seigneur, qui donne la force à celui qui est fatigué. Béni es-tu, Seigneur, notre Dieu, roi du monde, qui efface le sommeil de mes yeux et l'assoupissement. Donc, il y a déjà un bon quart d'heure de prière avant d'être bien réveillé, vous voyez, parce que c'est l'assoupissement de mes paupières.
Alors, on va s'arrêter sur le schéma parce que c'est une prière très connue, une
Après les
grande prière.
psaumes, après donc le quart d'heure, il y a les psaumes, et puis après les psaumes, le schéma
Donc,
Israël.
écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un.
Donc ça, c'est Deutéronome chapitre 6, quoi. Mais c'est aussi précédé de longues prières
Oui.
avant et de longues prières après, des prières de bénédiction.
Et le schéma doit également être prononcé juste avant le coucher. C'est
Au
ça,
moins 2 fois par
au moins deux fois
jour.
par jour. Au moins deux fois par jour. Alors, on poursuit avec les prières quotidiennes. Le Shemoneh Esrei, les 18 bénédictions, aussi appelées Amida.
Mais donc c'est tous les jours, hein, mais
C'est tous les jours, ça, oui.
je voudrais quand même enlever une idée que nos auditeurs pourraient avoir sur comment se passent les prières à la synagogue. Parce que je pense que quand on entend qu'il y a des longs offices comme ça de récitation, on se dit, on a l'idée d'un monastère avec des gens. Je voudrais lire quand même un texte qui est issu d'un livre sur la vie juive traditionnelle en Belgique, à Anvers, chez les Diamantaires, parce que c'est très explicite. Les offices successifs se déroulent tous dans la Beth Amidrash, donc. Aussi, durant chacun d'eux, y a-t-il toujours des adeptes non participants qui étudient ou qui discutent. D'autres qui mettent ou enlèvent leur châle de prière et leur phylactère indispensable à la célébration. D'autres encore qui sortent ou qui rentrent, qui sont debout ou assis, qui boivent ou qui mangent, alors que seul un certain nombre prend part à l'office proprement dit. Ce qui ne les empêche pas d'ailleurs de bavarder aussi avec leurs voisins. Tout cela avec le port des phylactères et du châle de prière crée une atmosphère bien particulière aux offices du matin. Si l'on ajoute que tous les lundis et les jeudis, on fait la lecture de la Torah en plus, donc, et à chaque minyan, les rouleaux de la Torah, avec un cérémonial approprié, entrent et sortent de l'armoire sainte pour la lecture des extraits de la tribune. Donc on aura une idée de l'enchevêtrement des plans et des temps multiples sur lesquels se déroulent ces communions collectives et individuelles avec le plus haut. Donc Et alors, les descriptions sont invraisemblables, quoi. Effectivement, ça prend, on a compté, si on faisait l'office du matin en entier, ça prend 2h30 minimum. Donc, ça veut dire que si vous travaillez en commençant à 8h30, il faut être à la synagogue 2h30 avant, il faut se lever à 5h. Il n'y en a pas beaucoup qui font tout.
Ben oui, évidemment. Mais il y en a. Il y en a. Oui, il y en a. Ouais. Alors, poursuivons dans la journée.
Alors, je m'en estrais effectivement les 18 prières, qui sont 19, comme voilà. Chacun sait.
Et j'en arrive au fameux Kaddish, parce que il est très connu. On a le, pour nous, ça nous rappelle la prière
c'est
des morts.
C'est la prière des morts, oui. Elle est dite au cimetière directement.
Mais pas uniquement. En fait, c'est aussi un texte très proche, finalement, du Notre Père.
Je dois avouer que je ne le connais pas par cœur. Hein. Je ne sais pas du tout.
Je vais me permettre alors de vous citer du livre d'Hélène Hadass Lebel, quelques lignes du Kaddish. Que son grand nom soit magnifié et sanctifié dans l'univers qu'il a créé selon sa volonté. Que son règne arrive pendant votre vie et du vivant de toute la maison d'Israël, bientôt dans un proche avenir. C'est vrai que ça a des consonances avec le Notre Père que nous connaissons bien. Hein.
Oui, mais il n'y a pas que le Kaddish qui a des consonances avec le Notre Père. Il y a beaucoup.
Ce qui paraît très logique d'ailleurs.
Mais non, parce que là, moi j'ai entendu combien de fois dire c'est Jésus qui a, pour la première fois, appelé Dieu Notre Père. Oui. Je l'entends encore régulièrement. Alors moi je suis très étonné parce que justement dans les Shemoneh Esrei, il y a, je vous lis la prière numéro 5 sur la repentance. Shemoneh Esrei, c'est une des prières les plus vieilles. Donc, antérieure à Jésus. Et on a « Fais-nous revenir notre Père à ta Torah. Rapproche-nous notre roi de ton... » On dit aussi « Notre roi ». Et la prière numéro 6 sur le pardon, « Pardonne-nous notre Père, car nous avons péché. Fais-nous grâce, notre roi, car nous avons... »
Donc, oui, évidemment.
Moi, je ne peux pas dire... Alors, ce qui peut-être être différent dans la bouche de Jésus, c'est qu'il ne dit pas « Avis-nous », mais il dit « Abba ». Parce que le judaïsme dit « Avinu », ce qui veut dire « notre père », mais il dit « Abba », ce qui veut dire « papa ». Donc ce qui change avec Jésus, c'est la familiarité, c'est vraiment la proximité, mais je pense sincèrement qu'il n'a pas inventé l'idée d'un Dieu père. Il suffit de regarder les anciennes prières pour s'en rendre compte. Effectivement, dans le Kaddish, on a le rappel de la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. Toute cette étude sur le judaïsme doit nous montrer qu'on a hérité de la plus grande partie dans le christianisme.
Catherine Mann, de nombreuses autres prières rythment la journée, mais le sens profond des prières, c'est le sens qu'on retrouve le plus dans les prières juives, lequel est, ce sont des...
Déjà, l'étymologie du mot prière tefillah vient d'une racine qui veut dire juger. On se place devant Dieu pour être jugé. Donc, c'est être mis à nu. Par contre, l'obligation...
Un examen de conscience, quoi. Un examen de conscience.
Exactement. Demande aussi, parfois, de s'agenouiller, etc. Mais la bénédiction. On doit bénir Dieu, et le Talmud dit... Donc, béni sois-tu, Dieu notre Père, qui, etc. Au moins 100 bénédictions par jour. L'essentiel de la prière juive, c'est de rendre grâce.
Ce ne sont pas des prières de demande, on ne demande pas quelque chose.
On demande aussi.
Aussi, mais bien principalement, sûr. Bien sûr, on remercie, demande. On rend grâce.
D'abord, rendre grâce. Oui. C'est cette histoire qui est assez différente. C'est pas toujours larmoyer, mais il y a des prières, effectivement, de demande. Mais c'est surtout béni sois-tu.
Catherine Mann, un grand merci. Cette émission touche à sa fin, malheureusement. Je vois que vous avez une pile de livres, comme d'habitude, qui monte quasiment jusqu'au plafond du studio. Pouvez-vous en piocher un ou deux pour nos auditeurs?
Celui dont j'ai fait la lecture, c'est le livre de Jacques Gutfirst, donc le « Vie juive traditionnelle », qui est une étude ethnologique d'une communauté juive traditionnelle en Belgique. Qu'est-ce que j'ai amené d'autre? Son équivalent... plus simple, chez Albin Michel, Présence du judaïsme, donc Ernest Guggenheim, Le judaïsme dans la vie quotidienne, qui explique le minimum de ce qu'il y a à faire, et entre autres la vaisselle, qui est très compliquée.
Merci beaucoup Catherine Mann, et à très bientôt.